My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle si peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur dans leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, et militer avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Alors nous voici dans Les Enfants du Nouveau Monde en mars avec Henri Madeuf. Henri, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai eu envie de t'interviewer en ce mois de mars pour parler de clowns, puisque c'est ça qui m'intéresse parmi tes multiples casquettes. Donc toi, tu es comédien, psychothérapeute et formateur spécialisé dans les questions de violence. Et encore plein d'autres choses que je ne dis pas, mais bon, on va pas passer une heure à citer toutes tes casquettes. Donc tu organises des stages de clown gestalt. Alors, gestalt, c'est une approche thérapeutique, on va dire. Comment tu pourrais la définir?
Oui, la gestalt, c'est une approche de psychothérapie, en fait, qu'on appelle issue du mouvement, du potentiel humain, des psychologies humanistes, en fait, qui sont apparues dans les années 50 et 60 et 60-70 en France, mais qui sont venues beaucoup des États-Unis. Voilà, c'est des psychologies humanistes qui sont centrées beaucoup plus sur la recherche, finalement, de comment faire autrement, et pas simplement moins centré en fait sur les causes et sur les ruminations sur les causes de pourquoi on va mal, mais qui cherche en même temps à voir comment on peut aller bien.
Alors comment on peut aller bien en faisant du clown par exemple?
Ah bah ça aide. Ça peut aider considérablement parce que c'est déjà de l'improvisation qu'on fait en clown, et donc quand on arrive à improviser en clown, bah je pense qu'on arrive à improviser beaucoup de choses aussi dans sa vie.
C'est donc intéressant cette approche que tu as du clown, c'est une approche assez particulière, donc c'est le clown gestalt, comme il est écrit sur ta plaquette, c'est donc la rencontre du théâtre, du clown, et de la thérapie, du développement personnel. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, on peut se demander, mais quel rapport, quoi? Quel rapport entre le clown et le développement personnel ou la thérapie?
Ah oui, quel lien! Ben, moi, en fait, c'est lié à mon histoire, c'est le résultat de tout un parcours personnel.
Ben justement, parlons-en de ce parcours personnel, alors.
Ben, moi, j'ai eu une enfance malheureuse, on va dire, plutôt assez tragique. J'ai connu beaucoup de formes de violence intrafamiliale. J'ai grandi à Belleville pendant la guerre d'Algérie, donc dans un climat vraiment de guerre. Et donc, quand j'ai eu 11 ans, j'ai atterri, je dis ça comme ça, en fait, dans un cours d'art dramatique, parce qu'à l'époque, on appelait ça comme ça, début des années 70.
C'est comme ça qu'on appelait le théâtre?
Ouais, on appelait ça les cours d'art dramatique, ouais.
Il fallait que ça soit du drame.
Ouais, mais c'est un peu le théâtre académique, quoi. Mm-hmm. On était juste après 68, c'était pas encore dans les conservatoires municipaux. C'était pas encore changé, on n'avait pas encore changé le nom, c'est les années qui ont suivi où on a appelé ça vraiment les cours de théâtre, quoi. Et moi j'ai atterri là, j'étais un petit bandit hein, plutôt dans la rue, et j'ai atterri là, personne sait comment. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est une intuition qui m'a poussé dans ce cours dramatique. C'était gratuit parce que mes parents n'auraient pas donné un centime pour que je fasse du théâtre, mais c'est assez mystérieux. En tout cas, je suis arrivé là et puis c'est là cette fois-ci, autant dehors j'étais la terreur, autant là c'est moi qui étais terrorisé. Mais j'étais terrorisé, mais je suis resté parce que c'était l'endroit où j'avais choisi d'être. Peut-être la première acte de ma vie, en fait, où je me suis mis dans le monde à ma façon, à l'endroit. Mais j'ai fait ça évidemment très intuitivement pour sauver ma peau, en fait. Mais je ne le savais pas encore. Et puis, dans ce cours de théâtre, bon, c'est l'accueil aussi de ma prof de théâtre, qui a su voir au-delà de mes blessures, au-delà de mes côtés too much qui étaient nombreux, et qui m'a vraiment soutenu, aidé, avec un regard. Moi, je me souviens de son regard comme si encore elle était là devant moi, mais d'amour, de mère, quoi, d'acceptation inconditionnelle et un regard très profond. Elle me voyait dans mes profondeurs. C'est la première personne qui me voyait et qui me rejoignait dans mes profondeurs. Donc déjà là, en fait, j'avais déjà l'amorce du théâtre et du développement personnel, mais sans le savoir. Alors après, évidemment, ça a guidé mon parcours de vie, mais j'en parle aujourd'hui comme ça de manière simple, mais en fait, ça s'est fait beaucoup dans l'inconscient, en fait, tout ce travail-là pour moi. Je suis devenu comédien grâce à ce cours de théâtre. Je jouais, en fait, je me sentais pas du tout comédien, je jouais parce que ça me faisait du bien de jouer. Je
Ça te faisait
pouvais.
du bien de
Ah, mais
jouer?
oui, parce que je
Parce que
pouvais.
tu t'oubliais?
Non, au contraire, parce que je me retrouvais. Mais je me retrouvais dans quelque chose de sain, dans une expression de moi, mais qui n'était pas dans la violence, qui était dans l'expression. Moi, je jouais les passions humaines. Au lieu d'être possédé par mes passions, je jouais les passions humaines. Une anecdote, c'est que j'ai réalisé, il n'y a pas si longtemps, j'adorais les stances du Cid. Les stances du Cid, c'est le jeune fils qui revient vers son père et qui lui raconte la guerre qu'il a faite et qui lui dit: Nous partîmes 500, mais nous nous vîmes 3 000 en arrivant au port et tout ça. Et il quête comme ça l'approbation de son père. Je réalise aujourd'hui, évidemment, qu'en fait, ça me guérissait, moi, de faire ça au théâtre, parce que c'est quelque chose que je pouvais absolument pas faire avec mon père. Mon père, il était inaccessible. Et je retrouvais cette quête, voilà, mais j'ai joué aussi des rôles d'amoureux, j'ai découvert le romantisme, j'ai découvert la littérature, les textes de théâtre et tout ça. Je connaissais
Ça
pas tout ça.
te permettait de prendre du recul par rapport aux passions justement qui t'animaient?
Ça me permettait de faire l'expérience de passion saine, qu'il y a quelque chose de sain, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut dire, qu'on peut être en lien avec l'autre, jouer avec l'autre, vraiment jouer, dans une relation profonde et saine, et en même temps, évidemment, au théâtre, cadré, mais à l'intérieur de ce cadre, on peut être présent avec toute sa vérité la plus profonde, la plus essentielle.
Alors ça nous permet de comprendre un petit peu mieux donc cette approche thérapeutique
Ben
à
oui.
travers ton parcours. On dirait que le théâtre justement t'a permis de te trouver, de guérir tes blessures, etc. Justement, tu parles du cadre. Donc ce cadre, il était très important. Je pense qu'il est important pour chacun de nous. On l'a plus ou moins. Il est plus ou moins bénéfique. Enfin, en tout cas, dans le théâtre, il est très important ce cadre. Et toi, notamment, dans les stages, tu mets une grande importance à enseigner les règles du jeu dans tout
Oui,
son art.
ben oui. Oui, parce que moi qui dépassais beaucoup les limites quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, j'ai appris à vraiment déplacer les limites, c'est-à-dire accepter l'existence des limites, mais de pouvoir les mettre où on a besoin de les mettre, en conscience, en fait, pas en rébellion contre le cadre. Mais j'ai développé en fait en parallèle à la fois ce travail de comédien et puis en fait très tôt dans ma vie j'ai commencé un travail de psychothérapie personnelle. En fait, je suis tombé amoureux mais je me rendais compte que je ne pouvais pas être dans une relation saine. Mon cœur était amoureux mais il y avait des endroits de mon être qui étaient bien trop blessés et où je ne pouvais pas me laisser toucher, je ne pouvais pas rejoindre l'autre ni me laisser rejoindre. Enfin, j'étais très handicapé, quoi.
Il te manquait le scénariste là pour le coup.
Oui, j'avais du mal
Les dialogues
à
n'étaient
faire
pas écrits
une drame.
d'avance.
Oui, l'histoire de ma vie, j'avais du mal à la déplier, en fait. D'une manière, je sentais que j'avais un cœur d'or, mais j'étais incapable de le laisser s'exprimer dans la vraie vie. Je pouvais être sur scène, heureusement, mais à un moment donné, il faut pouvoir le faire dans sa vie aussi, quoi. Donc j'ai développé un peu ces deux démarches, la psychothérapie et puis le théâtre en étant comédien. Dans le théâtre, j'ai découvert à 18 ans le clown. J'ai découvert un metteur en scène un jour qui m'a dit qu'il cherchait un clown pour jouer un spectacle. J'ai dit oui. Puis évidemment, on s'est rendu compte tous les deux très vite que je ne savais pas faire le clown, puisque je n'avais jamais fait de clown. Et c'est en fait une compagnie qui s'appelait le Théâtre de l'Espoir, à qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, et où je me suis formé vraiment au travail de clown, au clown théâtre en fait, C'est-à-dire que là, il n'y avait pas d'approche de développement personnel. On était vraiment dans le clown théâtre. On était dans le clown issu de ce qu'on appelle l'école Jacques Lecoq. Enfin, dans l'expression beaucoup corporelle, du rythme, du son, de la voix. J'ai fait ça vraiment pendant plusieurs années. C'est une vraie école, en fait, de comédien que j'ai fait là. Et puis, avec ce travail thérapeutique en parallèle, et puis j'ai rencontré Rosine Rochette, qui est comédienne et psychothérapeute et qui avait travaillé comme comédienne pendant 10 ans avec Ariane Nouchkine et le Théâtre du Soleil. Elle avait donc travaillé avec le spectacle Les Clowns, les débuts des années 70 d'Ariane Nouchkine. Et là, j'ai vraiment découvert le clown théâtre et une dimension du clown, de l'improvisation, mais aussi de comment le clown peut se rapprocher très vite aussi d'une dimension tragique aussi de la vie. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire rire, on cherche finalement à jouer des choses très profondes, et le clown, ce clown-là, il cherche rien d'ailleurs. Il émeut, il est émouvant, parce que profond, parce que honnête, parce que incarnant des enjeux existentiels dans lesquels, en fait, tout le monde peut se reconnaître, plus ou moins, en fonction des enjeux qui sont présentés, mais tout le monde peut se reconnaître. Donc c'est plus un clown et un travail qui va émouvoir le public, lui faire un peu comme un miroir finalement des ombres, des enjeux très profonds, très existentiels qui habitent finalement l'humanité tout entière.
Donc le clown, c'est pas forcément un rigolo. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que le point central du clown, ça serait l'honnêteté pour toi ?
Ah oui, vraiment l'honnêteté, oui, pas au sens moral du terme, mais
l'authenticité,
ouais, le courage de se laisser vivre dans l'instant ce qui est présent, vraiment. Et là, c'est là que la gestalt en tant qu'approche psychothérapeutique, elle est vraiment centrée sur l'ici et maintenant. Et sur la compréhension de tous les moyens qu'on a de couper le contact avec soi-même, avec l'autre, ou même avec l'environnement dans une situation. Donc c'est là que ça se rejoint complètement avec le travail de théâtre et de clown en particulier. Et puis, pour la question de le clown, c'est pas pour faire rire, non. Oui et non, il y a un clown pour faire rire. C'est celui du clown de cirque. Jusque dans les années 60 en France, la tradition du clown, c'était le clown de cirque. Alors que là, plus dans le grotesque, plus dans la farce, plus dans on retrouve ça aussi dans la tradition de la comédie dell'arte, on est plus dans se moquer, on va dire. Voilà. Et de soi-même aussi, mais sur le mode de la moquerie. Et puis, il y a eu avec Ariane Nouchkine, en fait, fondamentalement, Peter Brook a amené des choses aussi autour de ça. Vraiment le clown théâtre, la dimension vraiment là où on approche plus des enjeux profonds et on n'est plus sur se moquer, on est sur incarner vraiment des choses très profondes. Et puis dans les années, ça c'est les années 70, puis dans les années 80-90, se sont développées vraiment des approches de clown développement personnel, parce que quand on... Ce qui est terriblement formateur dans le travail d'improvisation en clown, c'est que dans l'ici et maintenant d'une improvisation, tous nos freins, toutes nos peurs, tout ce qu'on n'a pas su parfois déployer de soi-même, ça nous apparaît avec une force incroyable, et tout ça en plus avec un public qui, même s'il a un regard bienveillant sur nous, il y a quand même cet enjeu du regard du public sur nous-mêmes. Et donc c'est un moment de révélation, vraiment de soi-même. Et c'est pour ça qu'il y faut un berceau de confiance dans le groupe. Là, c'est l'approche vraiment du travail de groupe, de psychothérapeute, de formateur, qui m'a appris vraiment à savoir faire ça. Après, il faut... Voilà, ce berceau de confiance, c'est la base, c'est-à-dire on constitue le groupe. Ça, c'est l'aspect animation du groupe. Et puis après, il y a les règles du jeu, parce que c'est pas n'importe quoi le clown. C'est les traditions, finalement, la tradition du jeu masqué. Et il faut des règles du jeu pour qu'une histoire puisse naître, soit une impro solo, ou que ce soit une impro en duo, ou une impro avec un chœur, c'est-à-dire à plusieurs.
En parlant de chœur à plusieurs, on va s'écouter une symphonie, car pour faire une symphonie, il faut être plusieurs. Et puis, Henri Madoff aime la musique classique. Alors là, c'est une musique classique revisitée, orientalisée, une symphonie de Mozart, un extrait de Mozart, l'Égyptien, Mozart in Egypt.
Thank you.
Nous sommes dans Les Enfants du Nouveau Monde sur Radio 16, sur le 99.2, avec Henri Madeuf, formateur en clown gestalt. Et justement, nous parlions des règles du clown, car pour faire bien le clown, eh bien, il faut respecter certaines règles.
Voilà, c'est un peu comme un langage théâtral, mais il faut connaître les règles du jeu, de base, en fait, du jeu masqué.
Et c'est ces règles-là qui font que ça... que d'un coup on y est, qu'on a l'impression que c'est pro.
C'est en fait ces règles du jeu, j'ai réalisé en travaillant avec Rosine Rochette que ce sont les règles du jeu de la vie en fait. C'est-à-dire, sont déjà, j'étais surpris de voir comment elles rejoignent complètement l'attitude d'un bébé quand il marche à quatre pattes et qui commence à découvrir le monde. Et au moment où il fait une découverte, il est complètement... concentré sur ce qu'il vient de découvrir, mais au bout d'un moment, il faut qu'il partage. Donc il va garder le contact avec cet objet, ce caillou qu'il vient de trouver, et tout en gardant complètement le contact avec ça, c'est son histoire, il va tourner la nuque et chercher dans l'environnement un regard pour pouvoir communiquer sa joie ou sa perplexité ou poser, demander une autorisation peut-être d'aller plus loin avec cet objet. Enfin, il va chercher le contact avec l'autre et puis retourner à sa petite affaire avec son jeu et tout ça.
Donc là,
et
bien
là, on est dans la base du règle du jeu du clown, paradoxalement.
C'est-à-dire le regard public.
Oui, et que c'est intéressant parce qu'en fait, je parle d'apprendre, mais en réalité, avec le temps, je me découvre qu'il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit de retrouver. C'est beaucoup plus organique que ça. C'est retrouver cette règle du jeu de la vie où on est à la fois avec soi-même, à la fois dans son expérience, avec l'autre en même temps et en tenant compte de l'autre, et où on peut tenir compte de l'autre sans oublier sa propre histoire, et que ça, c'est tout ça aussi que très profondément, ce travail de clown, d'improvisation clown et clown gestalt, en fait, nous réapprend, nous permet de retrouver finalement les bases de la relation à soi-même, à l'autre, et puis au-delà de ça, évidemment, au monde et à la vie.
Donc le clown, à ton sens, c'est le langage de l'innocence. C'est pour ça que ça nous émeut.
Oui, il y a quelque chose de l'innocence, vraiment. C'est-à-dire, l'innocence, j'ai entendu dire un jour que c'était l'enfant avant la première peur. Et j'aime bien, c'est une métaphore, mais c'est un endroit de nous finalement qui est resté intact et que peut-être même tout ce qu'on a construit autour de systèmes de défense, de toutes ces coupures de contact, comme on dit en gestalt, en fait c'est pour protéger cette part-là de nous. Et l'improvisation vraiment en théâtre et en clown particulièrement, et en clown gestalt, j'ai envie de dire encore plus, c'est très puissant, ça permet vraiment de se relier à cette part-là de nous et à la redéplier dans l'improvisation et en osant jouer ces peurs, c'est tous ces endroits de nous qui sont parfois vécus par nous comme inadéquats, inappropriés, jugeants. Et on peut retourner en clown comme on métaphorise, c'est une créature qui peut tout jouer. On peut se permettre vraiment de retrouver le plaisir de jouer sa propre violence, mais sans faire de mal à personne.
Mmh. Oui, parce que là, du coup, tu disais l'innocence, c'est l'enfant avant sa première peur, mais là, quand on se retrouve à s'essayer en clown, là, évidemment, on y est confronté à toutes nos peurs. Sur ta plaquette, tu as inscrit un slogan, c'est le clown gestalt, se jouer de ses failles pour se sentir plus vivant. Tu disais tout à l'heure, donc c'est apprendre à laisser vivre ce qui est présent, à incarner ce qui est présent, mais quel exercice difficile, parce qu'effectivement, exposer ses failles, non seulement déjà les reconnaître soi-même, c'est difficile, mais en plus les exposer au public, ça peut nous mettre dans une position très vulnérable. Mmh. Et comment on parvient à cela? Comment on dépasse son ego pour oser se montrer dans des aspects de nous-mêmes qui sont pas forcément flatteurs et qu'on a du mal soi-même à accepter, à accueillir.
Ben, c'est pour ça que je parle souvent de clown alchimiste, parce qu'il y a une alchimie qui doit s'opérer, effectivement. La première expérience qu'on fait tous en clown, en général, on arrive sur scène la première fois avec ce nez, qui est à la fois un masque, hein, qui est le plus petit masque du monde. Là, on est dans le jeu masqué, ce qu'on appelle au théâtre, avec ses propres règles. Mais en même temps, derrière ce masque, on est caché.
Le nez rouge, tu veux dire
oui,
que c'est un masque
rouge. Ah oui,
le nez rouge du
clown. C'est le plus petit masque, en fait, dans tous les jeux masqués, les traditions de jeux masqués, qu'ils soient en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, et tout ça, Orient et Moyen-Orient, enfin, partout, il y a des traditions de jeux masqués. Mais le nez clown, c'est vraiment le plus petit des masques. Mais le principe du masque, comme ça, c'est qu'on est caché derrière. Et le paradoxe, c'est que parce qu'on est caché derrière, on peut tout montrer. Et évidemment, c'est dans ce « je peux tout montrer » qu'il y faut des règles. Il y faut évidemment quelque chose qui devient... Alors là, on se rapproche de l'artistique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du psychodrame. Il ne s'agit pas de vivre... on n'est pas dans du rebirth, on n'est pas en train de, on n'est pas dans le revivre, mais on s'inspire. Oui, c'est vrai, de nos blessures secrètes, connues ou inconnues d'ailleurs, parce que parfois on est traversé par des choses qui sont transgénérationnelles. Donc simplement, c'est un travail, ça va être un travail d'apprivoisement avec nos parts d'ombre. C'est pour ça que c'est effectivement se jouer de ses failles, quoi. C'est-à-dire, mais pour ça, il faut déjà les accepter. La première expérience, c'est toujours qu'on a peur, quoi. Alors évidemment, quand on a peur, on est paralysé, on est là, on est complètement sec. On regarde le public, on se sent, alors là pour le coup, complètement bête, complètement idiot. Ça, en clown, on appelle ça prendre le bide. On n'a aucune inspiration, on a juste une envie, c'est d'être à des milliers de kilomètres de là. Et le public s'emmerde aussi en même temps. Donc c'est juste. Alors ça,
voire même est très mal à l'aise.
Oui, mal à l'aise parce que pour vous, il a mal pour vous, mais en même temps, il s'emmerde quand même, quoi. Donc c'est tragique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces cas-là, l'animateur, il suffit de dire à la personne, mais qu'est-ce que tu sens ? Elle dit, bah, j'ai peur, je suis mal à l'aise et tout ça. Elle dit, bah, joue ça. Plutôt que de faire semblant de ne pas vivre tout ça, vis-le en clown. Vis-le avec le regard public. Le public, il est avec toi. Il est complètement avec toi. Ce qu'il a envie de voir, ce n'est pas comment tu te débrouilles pour rien montrer. C'est comment tu peux montrer cette vérité que tu as. Et puis là, la personne se lance, se risque, et un clown qui est là avec sa peur, tremblant, son émotion profonde, on n'a pas besoin de plus que ça, parce que là, tout le monde se reconnaît.
C'est touchant.
Mais oui, c'est touchant. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui peut fleurir, quoi. C'est-à-dire que avec les costumes, le maquillage, il y a une créature, on n'est plus dans la psychologie de la personne. Des fois, on oublie qui c'est qui joue. On est au théâtre, on a une créature qui vit, qui a peur de ses ombres, qui a peur d'une petite moustique qui tourne autour de lui, qui se fait des films comme ça d'horreur. Et on connaît tout ça, et là, on touche au merveilleux.
Donc on peut tout incarner en clown ?
Oui. Ça, j'ai expérimenté, j'ai animé un atelier clown avec Rosine Rochette pendant 7 ans à Paris. J'ai expérimenté, en fait, j'ai inventé les nez à nez, c'est-à-dire les séances de psychothérapie, mais en clown. C'est-à-dire, moi, je vais en clown. Et là, j'ai...
Une séance de psychothérapie en clown.
Oui, une séance de gestalt en clown, c'est-à-dire la personne a une problématique sur laquelle elle veut travailler. Elle va se costumer de son côté. Moi, j'ai entendu la problématique. J'ai l'image d'un personnage aussi. C'est assez irrationnel, donc je me laisse guider par vraiment complètement. J'accueille ces intuitions que j'ai. Des fois, j'ai joué des petites filles. Des fois, j'ai joué des ours. Des fois, j'ai joué des révolutionnaires. Des fois, j'ai joué des saltimbanques. Des fois, j'ai joué une femme initiatrice avec un homme. On peut tout jouer, en fait, en clown, vraiment. Si on est... vraiment, c'est pas un trip de tête, ça vient des profondeurs, quoi. Et si on accepte, si on accueille ça et qu'on va au bout de ça, oui, on peut tout jouer, on peut jouer la cruauté, on peut jouer le sadisme, on peut jouer tout ça, parce qu'il y a la distance du jeu. Je fais ça sur scène, ça c'est mon histoire, mais en même temps, je regarde, de temps en temps, je donne le regard au public pour lui dire, vous voyez, je suis en train de faire ça. Donc il y a toujours cette distance qui est que je raconte au public ce que je suis en train de faire, quoi. Donc c'est cet espace-là, cette distance-là que l'on met entre
le comédien et son rôle.
Oui, entre l'histoire que je suis en train d'incarner, en même temps je le fais mais pour raconter quelque chose de moi au public. Et c'est cette distance qui fait qu'on quitte le psychodrame et qu'en même temps on va parfois aussi dans des choses complètement drôles, quoi. Vraiment, parfois des choses entre guillemets folle, quoi, mais une folie douce, quoi. Mais on peut, mais voilà, en fait, c'est la surprise à chaque fois, y compris pour la personne qui joue, parce qu'on y va chargé avec des choses très profondes. Parfois, on n'a pas besoin de savoir quoi, mais il faut arriver chargé. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, quoi, un petit miracle. Et puis, des fois, ça ne marche pas. Des fois, et c'est là qu'il y a, chez moi, la dimension du thérapeute qui sait accueillir aussi, justement, l'endroit des personnes, quand ça ne marche pas, d'arriver à comprendre avec elles qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce frein que la personne se met comme ça et qui l'empêche finalement d'être elle-même à ce moment-là. Et finalement, très souvent, je suis amené à suggérer à la personne d'incarner ce frein. Plutôt que de chercher ailleurs, c'est tout l'inverse. Il vaut mieux aller incarner la part de moi qui me fait freiner dans ma vie, et je l'incarne en clown. Et c'est finalement une façon de célébrer aussi nos mécanismes de défense, quoi. Plutôt que d'essayer de s'en défaire, et ben c'est plutôt de les apprivoiser et de faire connaissance avec eux.
Célébrer l'humain, célébrer l'imperfection, célébrer nos failles, célébrer l'humain.
Oui. Profondément, c'est une formation à être humain d'abord avec soi-même. Et c'est ce qui nous aide à être humain avec les autres. Vraiment, c'est ce qui donne cette ouverture aux autres. C'est déjà cette ouverture à soi-même, à ses failles, et à arrêter de se juger, de se disqualifier, de s'éviter soi-même. Ça permet vraiment, en fait, c'est un magnifique espace de permission. J'ai travaillé longtemps avec un psychothérapeute qui s'appelle Georges Escribano. Je cite parce que c'est mes maîtres, c'est des gens qui m'ont permis, moi, de faire tout ce travail-là. Et lui, il travaille beaucoup sur la notion de permission. Mais l'endroit pour moi le plus puissant pour prendre des permissions, c'est vraiment l'improvisation en clown gestalt. En tout cas, c'est ce que j'ai créé et c'est ce que j'aime faire.
Tu disais tout à l'heure, avant donc de découvrir les premiers essais que tu as faits, tu as rencontré des bides, justement. Ah, oui. Tu dis, je ne savais pas faire le clown. Alors, comment on apprend à faire le clown? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il faut être prêt? Est-ce qu'il y a un moment où on se sent prêt à faire le clown? Ou est-ce que c'est un apprentissage par où ça passe?
Ah, ça c'est une question complexe. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Parce que c'est un chemin. C'est comme une initiation. Quand on s'engage comme ça dans un travail d'improvisation, soit en clown ou dans d'autres choses, l'improvisation, c'est forcément un immense enjeu, quoi. On ose l'incertain, on va dans l'errance, on va dans l'incertitude. Donc on accepte que les choses ne soient pas fixées à l'avance. Donc ça, il faut être, c'est mystérieux de savoir pourquoi un être humain s'engage. Puis on s'engage en clown, mais des fois on s'engage dans la vie, des fois on arrête un boulot qu'on faisait depuis 20 ans pour faire autre chose, des fois on casse même des fois des choses pour pouvoir faire la place à du nouveau, quoi. Je pense que ça, c'est, y a pas de réponse unique. Il y a des personnes qui le font pour se faire du bien, se faire plaisir. Il y en a qu'ils font parce qu'elles ont eu, un peu comme moi, 11 ans, l'intuition que c'était ça qu'il fallait qu'elles fassent. Moi, quand j'ai commencé, pendant 2 ans, j'ai fait un atelier de clown un soir par semaine de 3 heures. Et pendant 2 ans, j'ai pris le bide. J'étais dans l'impossibilité de sortir quoi
pendant
que ce soit.
2 ans, toutes les semaines, c'était le bide et continuais à y aller.
Et j'ai continué à y aller.
Tu serais pas un peu sadomaso, toi?
Non, parce que je sentais, je savais au fond de moi que j'étais fait pour ça, mais j'étais dans l'incapacité à ce moment-là vraiment d'aller au-delà de ça, quoi. Mais j'avais confiance en fait, mais c'était dur narcissiquement, c'était extrêmement dur. Et puis un jour ça a lâché, et là ça a été comme un barrage qui lâchait, et là j'ai improvisé, j'ai eu des jubilations mais immenses. J'ai fait des impros d'une demi-heure où là c'était une joie immense, parce que il y a quand même quelque chose tu parlais tout à l'heure, c'est vrai, de rejoindre l'humain que l'on est, mais ça procure une joie vraiment profonde, immense, mystérieuse presque, tellement elle est miraculeuse parfois. Par rapport, on dépasse même les choses que l'on croyait, quoi, sur soi-même, sur le monde, sur la vie, sur l'amour.
Une jubilation, tu dis.
Oui.
Ça donne envie, mais effectivement, pour atteindre cette jubilation, il faut passer des caps.
Ah ouais.
Et pour célébrer ces caps du travail personnel, ces caps que l'on passe grâce au travail du clown, eh bien, Henri Madoff nous paye la tournée, c'est Champagne pour tout le monde. Il nous a choisi cet extrait de l'album Champagne de Jacques Higelin.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, tu vas marquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait de bon dans un concert de jurons disant le tout pathétique que l'état des obscènes. Ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Vous écoutez Radio 16, on vient d'entendre Champagne pour tout le monde de Jacques Higelin. Et aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, on s'intéresse à la clown thérapie, on pourrait dire, au travail du clown mêlé à la thérapie gestalt. Et c'est Henri Madeuf qui nous en parle si bien. Car contrairement à ce que l'on croit, le clown, c'est pas si facile. Ça s'improvise, oui, mais avec quelques règles de base et beaucoup de courage.
Il y faut du courage parce qu'il faut affronter l'inconnu. Et le pire inconnu, c'est pas celui qui est à l'extérieur, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui qui nous fait le plus peur. D'abord, plus peur, c'est nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'il faut un immense courage d'accepter de se confronter à ça. Et puis dans le lien et le contact avec l'autre. Parce que dans les règles du jeu à deux, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en clown, on ne peut pas faire de refus de jeu. C'est-à-dire, le refus de jeu, c'est l'autre fait une proposition, je ne peux pas faire une autre proposition. Je dois réagir à cette proposition et faire une autre proposition en lien avec ce que l'autre a fait.
Alors, on va prendre un exemple pour que ça soit...
Eh bien, il y en a un qui... Je ne sais pas, on va prendre un truc un peu caricatural, mais pour que ce soit plus clair. Parfois, c'est subtil. Mais il y en a un qui arrive, le premier qui pose la première carte dans l'impro, il vient vers moi et il me prend la main et il me brandit ma main vers le haut. Eh bien... Ils me donnent le regard, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux pas lâcher la main, partir ailleurs et me mettre à ramasser des pommes de terre. Parce que ça, je nie ce qu'il vient de faire.
Tu ne joues pas avec lui, tu refuses le jeu.
Voilà, je refuse le jeu. Alors que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ma main comme il l'a mis et de dire qu'est-ce que je vais faire avec cette main qu'il a mis là-haut. Et là, je prends le temps, je respire. Dans le regard public, je montre au public ce que ça me fait, ce qu'il vient de me faire, et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai envie de lui mettre ma main dans la gueule, quoi, quand on me fait ça comme ça. Donc comment je vais le faire? Donc je vais faire ça tout doucement, je vais descendre mon bras, là j'improvise, hein, j'invente au fur et à mesure, mais je vais descendre mon bras, je vais ouvrir mon poing, attraper son épaule, et le pousser à 3 mètres. Ça, c'est ma réponse à toi.
Alors,
et là, il y a une histoire qui commence à se raconter. Mm-hmm. On est dans la dramaturgie. C'est-à-dire, il y a quelque chose, un enjeu qui a émergé comme ça. Et on va suivre cette carte-là et improviser à partir de là.
Et c'est une histoire que même ceux qui improvisent découvrent au fur et à mesure.
À chaque fois, à toi, à moi. C'est là qu'on rejoint la vie. Hein. C'est quand on s'écoute vraiment, tu parles, je parle... Je réagis et voilà.
Comment ça se passe à ce moment très sensible, on va dire, où justement l'autre te fait une proposition, donc brandit ton bras en l'air, et là il y a un temps durant lequel tu peux être perplexe, ne pas avoir d'idée. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as le public qui a le regard braqué sur toi, et là toi tu es perplexe et tu ne sais pas.
Alors, c'est le moment le plus important, et c'est celui qu'on zappe le plus dans nos vies quotidiennes. On appelle ça l'encaissage. C'est-à-dire, l'autre peut faire de moi, quand c'est à lui le protagoniste, c'est lui qui joue, il peut faire de moi tout ce qu'il veut. Donc là, j'ai pris l'exemple, il me met le bras en l'air, comme ça. Et là, effectivement, c'est l'encaissage. C'est qu'est-ce que ça me fait, ce qu'il est en train de me faire. Et c'est un temps où on respire, où on prend le temps, et on ne réagit pas du tac au tac. Je dois attendre qu'il me redonne le regard pour réagir. Donc c'est vraiment tout ce qu'on ne fait plus dans nos conversations passionnées, où l'autre il n'a pas fini sa phrase, que je suis déjà en train de réagir, et alors après on ne se comprend pas, et on s'engueule, et on se machine, et on se truc, parce qu'on ne prend plus le temps d'encaisser, de laisser l'autre aller jusqu'au bout de son intention, pour moi ou avec moi, de me laisser sentir ce que ça me fait, et quand il a fini, de faire ce que j'ai à faire avec ce que j'ai ressenti à partir de tout ce qu'il a fait. Et là, on déplie quelque chose. On peut construire une histoire à deux. Alors que si on est tout le temps en train de s'annuler l'un l'autre, eh ben on va finir frustré, fâché, triste, désespéré et en ayant juste envie d'aller voir ailleurs parce qu'on a raté la rencontre.
On a raté la rencontre. Alors du coup, cet encaissage, donc ce moment où on revient vers soi, où on vient voir en soi qu'est-ce que ça nous fait, ce que l'autre a dit ou a fait ou a proposé, qu'est-ce que ça nous fait, ce moment-là, il peut être plus ou moins long, il peut même être plutôt long.
Ben, moi, je pense souvent qu'il faut qu'il dure au moins 3 respirations. Alors, c'est pas vrai, parce que dans la dramaturgie, parfois, il y a une situation qui est en place, il y a une dynamique qui est là, il y a une logique, il y a une histoire qui est en train de se raconter, et si le rythme, il est comme ça, vite, on va avoir des moments un peu de tac au tac, mais parce qu'on est déjà dans l'histoire. Mais au moment où on doit laisser émerger un thème entre deux, parce que on n'a pas... Des fois, il n'y a pas de thème, on se découvre, c'est deux créatures qui se découvrent. Qu'est-ce qui va advenir ? Personne ne le sait à l'avance. Même
total
si on a...
impro.
Ouais, total impro, ouais. Et donc, dans ces moments-là, l'encaissage, c'est essentiel de prendre le temps de respirer, de sentir qu'est-ce que ça me fait. Parce que j'ai dit un truc un peu brutal, mais des fois, l'autre, il peut, à l'inverse, venir me faire une caresse, ou il peut partir à l'autre bout de la pièce, ou il peut venir se lever contre moi. Enfin, tout est possible. Lui, il fait avec son élan, et moi, je fais avec le mien, mais à partir vraiment de sa proposition. Et c'est ça qui est juste, d'ailleurs, c'est dans la vie, ce qu'on... C'est revenir, les vocabulaires, c'est intéressant. En clou, on parle de la proposition de l'autre. L'autre me fait une proposition. On n'est plus dans des trucs idéologiques ou tout ça. Tu parlais d'ego, mais on n'est pas dans l'ego. Là, l'autre me dit quelque chose, j'écoute sa proposition et après je réagis avec ce que ça me fait, sa proposition. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais je peux le dire et c'est ma proposition à moi. Et là, on tisse quelque chose.
Donc, et ça, on pourrait dire que c'est la rencontre avec ma propre émotion ?
Absolument.
Alors, comment, au moment de l'encaissage, je rencontre ma propre émotion et en même temps que je suis en train de la rencontrer, je l'offre au public. Ça, c'est assez subtil, ça.
Oui, ça, c'est toute la place du public qui est finalement... ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est si on est juste dans notre histoire à tout seul ou à deux, le public, il regarde des gens qui sont juste dans leur histoire... Et ça met une distance, et là, on est un peu justement dans ce qu'on pourrait reprocher un peu à un théâtre classique, académique, enfin, où on regarde une histoire se dérouler sous nos yeux.
Mais il n'y a pas d'interaction avec le public.
Il n'y a pas d'interaction, on se sent de temps en temps un regard d'un comédien qui se tourne vers l'assemblée, vers la salle, mais il n'y a pas l'important, ce n'est pas donné au lien, en tout cas avec le public. En clown, le lien avec le public est essentiel. C'est-à-dire que même quand on tout seul, une impro tout seul ou à deux, en ping-pong on dit, à deux, encore une fois, l'histoire qui se raconte, on prend le public vraiment à témoin de cette histoire qu'on est en train de raconter. Donc il y a toujours cette distance, je suis hyper engagé dans la relation là avec cette créature en face de moi, et de temps en temps... Clac, je donne le regard public pour dire, vous avez vu comme je me débrouille bien hein, quand même hein, avec lui là, parce que quand même il n'est pas facile. Hein. Allez, j'y retourne, hop, et je rentre dans le jeu. Alors on ne le dit pas forcément ça au public, mais c'est ça qu'on fait à l'intérieur. Quoi.
Le regard.
On prend le public à témoin, pas à partie, mais à témoin, vous avez vu ça. Et puis l'autre fait pareil, hein, à son tour. Donc ça c'est les règles du ping-pong qu'on appelle, qui sont très strictes. Et qui permettent en fait vraiment à une improvisation de fleurir, c'est-à-dire à une histoire de se créer, de s'inventer, de se dérouler et puis de se finir, ou de s'interrompre sur un acmé, sur un point tellement fort qu'il faut arrêter là. Des fois, en scène, on casse le nez, on arrête l'impro, ou parfois il y a des sorties extraordinaires, peut-être chacun de son côté ou ensemble, dans des positions complètement...
Le clown, est-ce que ça s'apprend, Henri Madoff ? Est-ce que ça s'apprend ou est-ce qu'on découvre son propre clown ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont clowns de façon innée ? C'est rigolo.
Alors ça, moi je peux répondre, mais j'ai une approche particulière. Il y a des écoles de clowns dans lesquelles on fait travailler son clown. C'est-à-dire on va dire, ton clown il a tel caractère, donc on va renvoyer vraiment au caractère. Moi, je suis pas du tout dans, mais voilà, je suis pas dans cette approche-là. Moi, je trouve que mon caractère en clown, il va changer en fonction de mon humeur, de ce que j'ai envie, besoin de travailler, de ce qui est présent pour moi dans ma vie. C'est ce qui intéresse. Moi, je travaille vraiment sur les ombres qui sont là, qui apparaissent, qui affleurent, qui sont profondes ou juste affleurantes comme ça. Donc ça peut prendre des formes complètement différentes. Et je préfère, dans ce travail-là, avoir cette liberté justement qu'on peut tout jouer et de surtout pas s'enfermer. Moi, j'accorde une immense importance aux costumes. J'ai énormément de costumes. Je me régale, je vais aux puces, je vais à Emmaüs, je tombe sur des choses immétables, évidemment, invendables même d'ailleurs des fois. Je ne sais même pas comment ils peuvent avoir des choses comme ça, mais moi je les achète pour les costumes. J'ai des maquillages professionnels, pas qu'ils abîment la peau, mais parce que le nez, mais avec les maquillages et tout ça, des tissus pour se faire des formes. Enfin voilà, j'accorde énormément d'importance aux costumes, justement pour ne pas fixer, pour pouvoir se créer vraiment des créatures, des univers voilà, différents, vraiment différents à chaque fois. Des perruques, j'ai des magnifiques perruques, parce qu'on peut jouer tous les âges, on peut jouer des vieux, des vieilles qui ont des milliers d'années parfois, qui arrivent comme ça, on ne sait pas qui c'est. Moi j'adore en fait, quand j'anime, d'un seul coup, voir quelqu'un qui rentre, dire... Pour animer, il faut que je sache quand même un peu qui c'est. Et des fois, j'arrive pas à savoir. L'improstermie, je n'arrive pas à savoir qui est sous ses peaux.
Qui est ce comédien, oui. Tellement le costume est, oui, est superbe.
Du coup, je suis au théâtre, je regarde cette magnifique histoire se raconter. Quoi.
Alors, je vais formuler ma question autrement. Ouais. Est-ce qu'en clown, on progresse? Est-ce qu'à force d'improviser en clown, on progresse? Est-ce qu'on apprend ou est-ce que c'est toujours un nouveau commencement à chaque impro?
Alors, les deux.
Les deux, mon général.
C'est-à-dire qu'on progresse dans le sens, paradoxalement, de la confiance en soi. C'est-à-dire, on progresse dans le sens d'accepter l'incertitude. C'est-à-dire d'avoir... un milliard d'idées avant d'entrer en scène pour improviser et de savoir que finalement il faut tout lâcher à partir du moment où on a fait le premier pas sur le plateau, parce que là il faut laisser, c'est organique, il faut laisser son corps parler, son imaginaire parler, sa respiration parler, son émotion au contact avec le public, avec le plateau, avec l'autre quand il y a un autre ou des autres. Il faut faire confiance à ça. Donc ça, c'est à la fois merveilleux et fragile. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri de se planter, de prendre le bide. Moi, personnellement, j'adore encore aller dans des stages et tout ça, parce que j'adore être étudiant. J'adore retrouver cette vraie peur de se planter, quoi. Vraiment, et de comprendre pourquoi. Parce que, donc, on progresse tout le temps... Mais la progression se fait dans le sens, finalement, d'une aisance, mais surtout dans le sens d'une profondeur et d'une confiance dans ses propres profondeurs.
C'est-à-dire que même si on prend un bide, au moins on est allé se rencontrer, on est allé rencontrer des résistances qui sont en nous et qui méritaient d'être rencontrées.
Oui. Et quelque chose de nouveau, parfois, qu'on n'avait jamais vu, jamais contacté, jamais vu d'aussi près, touché d'aussi près, ou qui nous touche d'aussi près. Ça, c'est toujours une opportunité de se rencontrer, oui, profondément.
Tu disais qu'il fallait du courage. Ben oui, il faut du courage pour oser se rencontrer dans nos profondeurs. Moi, j'ai parlé de tes stages à plusieurs personnes qui m'ont dit « Ouh là là, non, moi, j'aurais jamais le courage de faire ça. » Est-ce que c'est la peur du ridicule qui freine ?
Non, c'est la peur de se découvrir. Hein. C'est la peur, finalement, on a très peur de nous-mêmes. Hein. J'ai fait un stage avec pour des jeunes de 15 à 18 ans dans lequel j'utilisais beaucoup le clown et qui s'appelait Voyage au cœur de son talent. C'était des stages merveilleux et ces jeunes qui avaient jamais fait de théâtre de clown mais qui venaient quand même là, ils savaient qu'ils venaient dans un stage où ils allaient apprendre des choses sur eux, donc ils savaient que c'était un travail engageant, mais avec le clown, mais ils se sont laissés surprendre eux-mêmes par là. Ils se sont vraiment découverts comme on peut avoir besoin de se découvrir à 15 ans. C'est pas la même chose à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans. Moi, j'ai vu des gens de plus de 70 ans hein, faire des stages de clown. C'était extraordinaire, mais c'est pas du tout les mêmes problématiques. C'est pas les mêmes, j'allais dire, les mêmes angoisses, les mêmes enjeux, en tout cas, qui émergent. Mais chez des jeunes comme ça... De voir leur avec j'ai envie de dire la profondeur de leur innocence et en même temps leur leur merveilleux, quoi. Enfin, c'était touchant. Ils n'avaient jamais rien fait avant. Et le clown, paradoxalement, il n'y a rien besoin de savoir avant de venir. Ça s'apprend très vite. Moi, je vois sur un stage, là, je fais des stages de 3 week-ends. Les 2 premiers week-ends, enfin le 3e week-end, ça y est, les règles du jeu, elles sont intégrées. Donc après c'est que du plaisir, quoi. C'est de l'impro.
Alors justement, on en vient, hein, on arrive à la fin de notre émission, donc on va annoncer ta saison 2015 et les stages que tu organises donc au printemps. Donc là, c'est un stage sur 7 jours. En fait, ce sont 3 week-ends,
ouais.
Dont le dernier de 3 jours.
Oui.
Donc, c'est du 14 au 15 mars, donc le week-end du 14 et 15 mars, le week-end du 11 et 12 avril, et le week-end de 3 jours du 8 au 10 mai. Ça, c'est à faire, il faut s'inscrire pour les 3 d'affilée.
Oui, c'est vraiment un stage de 3 week-ends, quoi. Donc, on ne peut pas venir, il y a une progression sur les 3 week-ends. Et alors, en plus, il y a une nouveauté, là, qui est... c'est que les 3 derniers jours où en général justement on improvise beaucoup parce que les règles du jeu sont intégrées, eh bien il y aura un musicien, Gilles Erard, qui est un très ancien ami à moi, qui est un très grand musicien, qui a joué avec vraiment Souchon, Touricounda, enfin bon, vraiment Birkin, enfin énormément de gens, qui est clavier, et qui maintenant travaille beaucoup, enseigne beaucoup l'improvisation en musique. Donc on parle ensemble depuis 20 ans d'improvisation, et on se rend compte à chaque fois, on tombe d'accord à chaque fois qu'on parle de la même chose, lui quand il parle d'improvisation en musique et moi en clown. Donc je l'ai invité à venir les 3 derniers jours là, du stage de mai, donc on improvisera les 3 derniers jours avec Gilles Erard. Qui sera donc avec nous pour ça.
Waouh.
Ouais.
Alors donc c'est des stages qui ont lieu dans la région de Arles,
en fait à côté de Saint-Rémy-de-Provence, dans un mas qui s'appelle les Sentiers de l'Abondance. C'est un lieu tenu par Marie Falquet, qui est un lieu où elle produit énormément de produits naturels et tout ça à l'intérieur du mas.
Un très joli lieu, je confirme. Ouais, en pleine nature.
Pleine nature, au pied des Alpilles, très sauvage en même temps. Et une très belle salle sous les toits de ce grand mas.
Mas de caractère.
Ouais,
et voilà. Un accueil très chaleureux, très humain.
Voilà.
De la part de Marie.
Peut dormir sur place, on mange aussi sur place. Enfin voilà, on se fait notre petite vie de groupe et d'apprenti.
Alors, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent te contacter, Henri Madeuf, donc au 06 13 22 84 34. Ou alors, ils peuvent te contacter par mail, c'est henri.madeuf@club-internet.fr. henri.madeuf@club-internet.fr. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un petit dernier mot ou...
Juste pour finir avec ça, je ferai un stage de 5 jours. Alors là, un stage où les 5 jours seront condensés pendant le mois d'août. Et puis d'autres stages les week-ends, comme ça, en week-end à l'automne et puis là, en
2015 à l'automne,
voilà,
et puis
2016 après,
ça continue encore.
Ouais. Non, je me rends compte, on parle sinon, ma conclusion c'est, je me rends compte comme je suis passionné par ça, comme j'aime ça, parce que c'est tout le sens de ma vie, c'est aussi de redonner aussi tout ce qui m'a permis à moi de me construire, de me développer aussi artistiquement, humainement, socialement aussi. Voilà, donc j'aime partager tout ça.
Ouais, offrir aux autres maintenant cet outil de créativité et de rencontre avec soi-même.
Voilà, ouais.
Ouais, merci. Et puis on peut dire aussi que tu es éventuellement disponible pour organiser des stages ailleurs que
absolument.
Dans la région PACA, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui n'hésitent pas à te contacter.
Absolument, oui, je fais ça aussi. Là, c'est les stages que moi, j'organise. Mais parfois, j'ai là plusieurs personnes qui essayent de constituer des groupes pour... et puis là, je viens avec mes mâles, avec mon attirail. Et
toi, t'aimes bien te déplacer.
Ah, j'adore bouger, j'adore me déplacer, oui.
Super, je redonne tes contacts. Henri Madeuf, 06 13 22 84 34. Un grand, grand, grand merci, Henri.
Merci à toi aussi, vraiment.
My gang will get you.
retrouver toutes les émissions des Enfants du Nouveau Monde, une semaine sur deux, le dimanche à 19h et le samedi à 13h, et puis quand vous voulez, sur le www.radio16.net.